Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
T'as conduit, Germain, cette semaine la Kia K5 GT. Peut-être un mot pour mentionner que, visiblement, la nomenclature K5, ce qui commence par K, ben ça va devenir une nomenclature chez l'ensemble des modèles Kia. On le voit, là.
La Forte s'apprête à changer de nom. Elle s'appelle K3 sur d'autres marchés. Ça risque fort probablement d'être le cas ici, aussi. Et donc, cette semaine, j'ai conduit la version GT de la K5. On avait essayé, toi et moi, de démêler un peu tout ça quand j'avais conduit la Sonata N-Line il y a quelques semaines. Donc, c'est la version la plus sportive de la K5. Donc, moteur turbo-compression, on est à 290 chevaux.
C'est une Sonata N-Line.
Oui, absolument. C'est la même voiture. Je l'ai conduite et j'ai senti peut-être un petit peu plus nerveuse, un petit peu plus pépée. Tu vas me dire que c'est pas des grandes différences là, mais peut-être la transmission un petit peu plus vive à réagir quand on enclenche le mode sport, c'est subtil, je l'admets. Tout comme la Sonata N-Line, quand tu mets ça en mode sport plus et que l'anti-patinage se désactive, je te confirme que ça se garoche partout.
C'est l'effet de couple, pas de bon.
L'effet de couple est énorme, mais en même temps, 290 chevaux sur l'essieu avant d'une berline intermédiaire, c'est beaucoup lui demander.
On ne nous a pas expliqué pourquoi on peut avoir le rouage intégral sur d'autres versions,
Toutes les autres versions.
Mais pas l'hybride.
Non. Mais toutes les autres versions de la K5 à moteur à essence normal, donc qui a le 1.6 turbo.
Est-ce qu'il y a un défi technique qui fait en sorte qu'on ne peut pas l'installer aller dans celle-là, parce que ça serait tellement logique.
Oui, ça serait logique, mais mon intuition est me dit que on coupera des ventes à la Stinger, qui est le modèle fort. Tu vas me dire, c'est un modèle qui se vend pas. On coupera quoi comme vente? Je le sais bien, mais ça sera deux véhicules qui seraient peut-être trop près. Dans le catalogue, une K5 à moteur 2.5 turbo et une Stinger, puis les deux 4 roues motrices.
Surtout sur le marché américain, sur le marché américain, considérant qu'on a des versions en 4 cylindres là-bas,
qu'on n'a pas ici. Donc, ça serait difficile à justifier. Mais sinon, à bord, j'avais reproché à la Sonata N-Line et à toute la gamme de la Sonata d'avoir pas de place du tout pour ma tête. Je mesure 5 pieds 11, je le répète, je suis vraiment pas un géant, mais ça manquait définitivement de dégagement pour la tête.
En fait, le dégagement, c'est pas compliqué. La plupart des voitures coréennes, c'est comme ça. Les sièges, on n'a pas assez d'ajustement à la verticale. Non. Les sièges sont trop hauts. On les règle systématiquement, toujours au niveau le plus bas possible, même pour quelqu'un qui mesure 5 pieds 6. Là. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir changer.
J'ai fait le test parce que, si tu le dis, on ajuste toujours le siège au plus bas. J'ai dit, tiens, je vais le mettre au plus haut possible, juste pour voir où on peut se rendre.
Ta voix a changé. Hein?
Comment?
Ta voix a changé.
Non, mes épaules touchaient au plafond. Littéralement. Donc, c'est très mal pensé, tout ça. Ça n'a aucun bon sens. De ton côté, tu as conduit le Ford F-150. Tu en as glissé un mot un peu plus tôt.
Oui. Alors, j'ai conduit, cette semaine, deux versions du F-150. Je m'apprête à en conduire une troisième au moment où je te parle. Je
le présente. Parce que plus tôt cette année, tu as conduit la version hybride, si je ne me trompe pas.
J'ai conduit le Power Boost, qui était un prototype sur une très courte distance. Cette semaine, j'ai pu conduire un F-150 à moteur 2,7 litres EcoBoost. J'ai aussi conduit le 3,5 litres EcoBoost. Et je reprendrai le volant tantôt de la version Power Boost pour me rendre à Québec en fin de journée et le présenter. Salut, bonjour, demain matin. C'est un véhicule que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner côté consommation. On annonce une moyenne combinée à 9,8 litres au 100 pour un véhicule qui a 570 livres de couple, 430 chevaux, qui a 12 400 livres.
Les attentes sont très élevées, là.
12 400 livres de capacité de remorquage et 14 000 dans le cas du 3,5 EcoBoost de 400 chevaux. Écoute, je connais personne qui a 14 000 livres à remorquer qui va s'acheter un 150.
Non, les gens font le saut vers un
Super Duty ou un HD. Bon, enfin, bref. Mais tout ça pour te dire que On a travaillé très sérieusement sur le nouveau F-150. Moi, je trouve un point que j'aimais plus ou moins sur l'ancienne génération, où l'ancienne génération était... Bon, ouais. On s'entend.
Oui, parce que là, on nous dit qu'on est à une nouvelle génération du F-150.
Ben, c'est une évolution, là.
C'est une évolution. Pour moi, c'est carrément une évolution de mi-mandat. Là.
C'est une évolution sérieuse, oui. Dans la mesure où on dépasse le cadre de l'esthétique. On a retravaillé les suspensions. Ça paraît, le véhicule est mieux ancré au sol. Ça sautille moins à l'arrière, ça, j'ai trouvé. Cabine qui est encore mieux insonorisée. Mm-hmm. Là, tu vas me dire que je suis dans une version à presque à 100 000
$. Oui, on espère que c'est confortable et bien insonorisé.
Il y a tout ce qu'il faut dans ce véhicule-là. Ergonomiquement, on a très, très bien travaillé. Je te dirais que oui, Apple CarPlay, Android Auto, sans fil, on a ça dans le véhicule. Il y a quand même un délai avant qu'il se mette en fonction. Ça, okay. J'ai trouvé ça un petit peu
délai
agressant.
Délai de quelques secondes?
Il y a un délai de quelques minutes.
Quelques
parfois,
minutes.
Tu prends la route, puis coudonc, le système n'embarque pas. Puis à un moment donné, whoop, il arrive. Mais bon, on parle beaucoup chez Ford du Sync 4, qui est encore une évolution du système Sync à commande vocale, qui, encore une fois, en français, ne fait pas de miracle. Là. Bon, on est loin de l'application Google qu'on va retrouver chez Polestar, Volvo, par exemple, qui, pour moi, est peut-être une nouvelle référence. Mais bref, plus de fonctionnalités, meilleure ergonomie. Je ne suis pas un fan de cette nouvelle instrumentation-là qui est 100% numérique, qu'on retrouve devant soi.
C'est pas mal la nouvelle tendance,
quand même. C'est à la mode.
D'ailleurs, on parlait plutôt du Taos, qui est livré là, de série avec l'instrumentation numérique. Ouais. Et on le crie sur tous les toits. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va.
Mais on a apporté des innovations sur le F-150. Donc, la console centrale qu'on peut transformer en table de travail. Tu peux glisser un laptop de 15 pouces dans la console.
Et ça, c'est bien, parce que combien de propriétaires de F-150 passent la journée autour du véhicule et s'en servent comme véritable bureau? Là?
Mais tu sais, il y a quand même... On pense tellement à tout chez Ford que des fois, on a l'impression qu'on pousse un peu trop. Par exemple, tu peux prendre en option une génératrice dans le véhicule, brancher tes outils sur le 240.
Pardon, mais tous les contracteurs ont déjà leur génératrice, là.
Non, mais... Tu sais,
jusqu'au
haillon sur lequel on a gravé à l'intérieur des mesures.
Ouais, oui.
Et il y a quelqu'un sur Internet qui a fait un savoureux vidéo où on le voit partir avec la tailgate du camion pour aller prendre une mesure sur le chantier.
C'est fabuleux. Plutôt que de
traîner son tape à mesurer, ça, j'ai trouvé ça magnifique.
Ben oui. Mais ça, c'est des clins d'œil. C'est, on essaie, mais dans la vraie vie, ça ne sert à rien.
Ben ça, c'est sûr.
Oui.
Ça, peut-être une fois.
Il y a un
porte-crayon
aussi.
C'est ça. C'est un peu plus pour installer une oreille sur le tableau de bord pour pouvoir mettre un crayon dessus.
Ouais, c'est bon. Avec un support pour la chemise carottée. Là,
c'est ça. Mais non, c'est ça. On pense vraiment à tout. Puis c'est un camion qui se comporte vraiment à merveille. Tu vois, avec le... Puis moi, j'ai toujours été un fan du 2.7 EcoBoost. J'ai toujours trouvé que ce moteur-là faisait un travail exceptionnel. Puis tu vois, j'ai roulé avec ce moteur-là à 12,1 litres au 100 de moyenne combinée ville-route autour du point de congélation. Fait que j'ai trouvé ça très honnête. Avec le 3.5, je suis plus à 13,2, 13,4.
C'est normal parce qu'on a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de capacité, là.
Puis c'est toujours... Bon, on s'entend, là, le problème de ce moteur-là, ben c'est évidemment lorsque tu te mets à remorquer, à travailler fort avec ça, ça siphonne pas un peu. Moi, je souligne encore le fait qu'on a un excellent moteur diesel qu'on propose en option avec lequel j'avais pu rouler sur plus de 5000 km avec une remorque de 6600 livres. Ça m'avait vraiment impressionné comme mécanique. Et visiblement, c'est une mécanique qui est fiable. On n'entend pas parler de problèmes majeurs, mais évidemment, pour la rentabiliser, il faut rouler. La consommation se situe entre 9 et 10 litres au 100 à l'aige. Avec 6600 livres à l'arrière, j'étais à 13 litres au 100 seulement. Donc, je trouvais ça quand même très raisonnable. Ouais. Maintenant, là, c'est la version Power Boost que je vais aller essayer.
Oui.
Donc,
c'est la grande nouveauté pour cette année.
C'est la grande nouveauté. Et un point qu'il faut souligner, c'est que Ford le propose dès la version XLT. T'es pas obligé d'aller dans une version hyper luxueuse pour obtenir le moteur. Il n'y a que la version XL qui ne l'a pas. Mais par contre, tu es obligé de prendre la cabine Super Crew.
Okay.
Tu ne peux pas l'avoir avec un Super Cab ou avec une cabine régulière.
Okay.
À partir du moment où tu as une version à quatre portes avec le groupe XLT, ben tu es correct. Tu peux prendre l'option Power Boost qui coûte autour de 5 000 et plus tu montes en gamme, évidemment, plus le coût de l'option diminue.
Ouais.
Ce qui fait que sur une version limited, ça va te coûter 2 000
okay.
Alors, c'est vraiment une mécanique qui me semble intéressante, mais pour le rendement, ça, c'est sûr. Maintenant, pour la consommation d'essence, je vais pouvoir vous en dire un peu plus. Demain matin, à Salut Bonjour, j'aurai fait le test autoroute. Puis,
on n'aura pas le choix, on va t'écouter.
Puis, ce qui est ironique, c'est que la cote de consommation annoncée est à 9,7 litres au 100 sur route, 9,8 litres au 100 en ville.
OK.
Donc on est vraiment...
Il est performant, peu importe où on le met.
Bien, en fait, c'est qu'on sait qu'un hybride en ville, il y a un avantage plus que sur autoroute. Donc, si je me fie à tout ça, je devrais être capable de garder une moyenne sous la barre des 10 litres pour me rendre à Québec en mettant ça sur le régulateur de vitesse à une vitesse légale ou légèrement légale, là, disons 110. Alors, je vais faire ce test-là et on en reparlera peut-être un peu plus la semaine prochaine. Ça vaudrait la peine de revenir là-dessus parce que on sait que c'est juste le véhicule le plus vendu au Canada depuis des décennies et qu'il y a de plus en plus de propriétaires de camions qui, évidemment, vont considérer ça, le veut pas.
Absolument.
On le voit, le litre d'essence le grimper, là, ça commence à être
fatigant. Tranquillement.
Et acheter des véhicules énergivores, ça devient peut-être de moins en moins... Tu sais, il y a de moins en moins de gens que ça énerve, là. Plus en plus de gens que ça énerve, que ça agace.
Ouais.
Bon, celui qui s'achète un Ram TRX en a rien à cirer, ça, c'est sûr. Mais le gars qui roule avec ça au quotidien...
Il y a moyen de faire des compromis en y allant avec quelque chose comme
ça. C'est ça, les mécaniques s'améliorent. Tu vois, il y a chez GM qui conserve des gros V8, c'est ce qu'on promouvoit comme mécanique. Puis ces mécaniques-là n'évoluent pas beaucoup au fil des années. Elles sont fiables, sont réputées.
Voilà.
Mais côté consommation d'essence, ben, depuis qu'on a renouvelé les pick-up Silverado Sierra et les Tahoe Yukon Suburban, les codes de consommation ont monté.
Oui, effectivement.
Les véhicules sont plus lourds, sont moins aérodynamiques.
On arrive avec le diesel, qu'on pourra peut-être essayer un de ces quatre, mais...
Ça, c'est drôle. On va le dire, OK? Parce que tu devais essayer cette semaine le Suburban diesel.
Ouais.
Je devais l'avoir lundi prochain à la suite de toi. Ça n'arrivera pas. Pourquoi?
Ah, ben parce que le préposé au remplissage du véhicule du concessionnaire GM qui se chargeait de la préparation du véhicule, ben elle a rempli le Suburban diesel avec de l'essence ordinaire.
C'est quand même hilarant.
D'un véhicule neuf de plus de 80 000 $
Alors, on l'aura un jour.
C'est retardé à une date ultérieure.